Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Le 30 avril, c'est la journée contre les violences éducatives ou la journée pour l'éducation non violente, c'est comme vous le souhaitez. Et bien justement, dans ce cadre-là, il y a un film à aller voir, un documentaire qui nous parle de la Suède. Ça s'appelle « Même qu'on est imbattable », qu'on est du verbe « naître », parce que là-bas, et bien la Suède, depuis les années fin 70, ont décidé effectivement que toutes les punitions corporelles étaient interdites. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous le saurez en regardant ce film. Mais c'est aussi une occasion de se poser la question sur cette éducation non violente. Est-ce que c'est efficace? Et qu'est-ce qu'il en est? On va en discuter avec notre invité. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Rendez-vous au cinéma Le Grand Palais de Cahors pour une soirée qui est consacrée à l'éducation non violente dans le cadre justement d'une journée mondiale, internationale, qui s'appelle la journée de la non-violence éducative. Ça se passe le 30 avril et c'est animé notamment par Vanessa Callas, qui est thérapeute familiale et consultante en parentalité. Elle est avec nous. Bonjour Vanessa Callas.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est finalement que l'éducation non-violente? Ça a l'air d'être un gros débat, ça, parce qu'on va forcément parler, j'imagine, de la fessée, de la petite gifle, qui, durant de longues années en France, par exemple, ça faisait partie de l'éducation.
Tout à fait, et ça en fait encore partie, en fait, parce que la France a signé, donc a voté une loi qui est toute récente, donc en 2019, contre, justement, ce type de violence à l'égard des enfants. Et donc 2019, ça reste extrêmement récent. On est le 55e pays en Europe à avoir voté cette loi, après avoir été quand même trois fois épinglé par le comité des droits de l'enfant de l'ONU. Donc cette loi, elle arrive vraiment tard, mais bon, voilà, on y est, enfin. Et donc l'éducation positive ou l'éducation relationnelle, en fait, ça renvoie aux attitudes parentales ou adultes qui vont être positifs pour le développement de l'enfant. C'est-à-dire que quand on entend éducation positive, il y a des mauvaises interprétations qui disent « mais finalement, c'est dire oui à tout ». Ben non, justement, c'est pas dire oui à tout. On ne dit pas oui à l'enfant pour tout ce qu'il fait. Au contraire, on dit très souvent non également. On va poser un cadre, mais qui va lui permettre de se développer en fonction de son âge. Donc, en réalité, ça va être tout ce qui va permettre de favoriser le développement naturel de son cerveau, de sa motricité, de son affectivité.
Mais on ne sait pas faire donc, ça en France.
Eh bien, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'effectivement, souvent, c'est mais comment? Parce que les alternatives, on ne sait pas trop. Et donc, nous, ce qu'on propose à l'association Plurisanté 46, en lien avec la CAF, c'est justement de faire des actions de prévention, de sensibilisation, de formation également, envers les parents, mais également aussi par rapport à des professionnels qui travaillent avec dans le champ de l'enfance, pour pouvoir avoir des connaissances appropriées sur le développement de l'enfant, afin de changer de regard et pas juste se dire mais finalement cet enfant il me cherche, il me provoque, il cherche à avoir des limites, etc. Et avoir aussi des outils, une sorte de boîte à outils qui va nous permettre de gérer tout un tas de situations de la vie quotidienne de tous les jours, parce qu'il faut bien pouvoir les gérer aussi.
Mais vous devez avoir vos contradicteurs, parce que, en tout cas, ceux de ma génération, on a quand même été élevés un peu comme ça, et la réflexion que l'on a, parce que nos parents eux-mêmes ont presque été élevés comme ça, nos grands-parents, oui, c'est sûr, et la réflexion, c'est mais, je ne suis pas mort pour autant.
Oui, tout à fait. Heureusement, d'ailleurs, que vous n'êtes pas mort.
Oui, c'est sûr.
Mais certains décèdent, par contre, effectivement, ils ne sont plus là pour en parler. Mais effectivement, il y a eu beaucoup... c'est-à-dire que cette éducation traditionnelle qui admet ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, que je vais peut-être définir tout à l'heure, c'est la porte d'entrée aussi vers des violences qui peuvent être plus graves et qui peuvent mener aussi à des décès d'enfants. Et aujourd'hui, en France, on a quand même des chiffres qui sont assez élevés par rapport à ça.
Oui, mais il y a une nuance quand même entre se donner une baffe et secouer un bébé, par exemple.
Oui, tout à fait. Les conséquences, effectivement, ne sont pas les mêmes. Le syndrome du bébé secoué, ça peut générer donc des séquelles qui vont être irréversibles, voire la mort. Une gifle, effectivement, ça ne va pas tuer. Mais par contre, ça va laisser des traces psychologiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que toutes les violences psychologiques vont avoir des effets à long terme sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et bah, grâce à ça, bah, finalement, nos cabinets de psy vont être remplis. Ouais. Donc ça, c'est un autre problème. Et c'est vrai qu'on s'en passe très bien, finalement. C'est-à-dire qu'on peut aussi éduquer sans avoir recours à ces méthodes. Et finalement, quand on réfléchit, qu'on se dit, parce que moi, je suis aussi de votre génération, je pense, hein, donc effectivement, ça fait partie de ce qu'on a pu vivre. Mais on se dit, mais finalement, ben, si je n'avais pas reçu de GIF ou si je n'avais pas été puni régulièrement, etc., est-ce que je n'aurais pas pu aussi me développer correctement et avec une meilleure confiance en moi?
Mais donc, finalement, nous, c'est... Voilà. Les parents peuvent être aussi désarmés, parce que quand même, quand il y a certains gamins et certains jeunes qui mènent vraiment la vie dure aux parents, on se demande même comment on peut faire une éducation non violente à des enfants qui le sont peut-être d'ailleurs avec leurs parents. Comment on fait alors dans ces cas-là pour trouver la juste dose?
Alors c'est là où nous on intervient finalement, parce que nous on estime que ça démarre vraiment au berceau. C'est-à-dire que c'est la relation qu'on va instaurer avec l'enfant qui va être une relation autour du dialogue, autour de la bienveillance, à essayer d'avoir une lecture de ses comportements, parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que par rapport aux violences éducatives ordinaires, là où ça explose, c'est entre 2 et 5 ans. Et en fait, entre 2 et 5 ans, c'est vraiment des âges où des enfants voire de toutes les couleurs, parce que tout simplement, leur cerveau, il n'est pas du tout mature, ils n'ont pas le contrôle sur l'inhibition de leur comportement, etc. Ce qui fait que beaucoup de parents sont très démunis par rapport à des comportements de leur enfant qui, somme toute, sont naturels à cet âge-là. Et ce qui fait que, à 2 ans, en fait, il y a déjà 50% des enfants qui ont été frappés, que ce soit par des fessées, par des gifles, être pincés, être bousculés, etc. Et à 25 ans, c'est les 3/4 des enfants en France qui ont été frappés à des fins éducatives. Donc là, on voit bien que les parents, ils ont besoin à un moment donné d'être soutenus et d'avoir des techniques. Donc nous, après, on a tout un tas de techniques qu'on diffuse à travers les ateliers, à travers les conférences débats, pour arriver à canaliser les émotions quand ça arrive, et aussi à canaliser les émotions du parent. C'est-à-dire qu'il y a les émotions de l'enfant, avec des crises émotionnelles qui sont des tempêtes, et puis il y a aussi ce que ça va susciter en termes d'émotions chez le parent. Et vous disiez tout à l'heure, ben, finalement, nous, notre génération, ben, comme on a baigné là-dedans, ben, finalement, notre cerveau aussi, à nous, en tant que parents, il va être extrêmement stressable. Et quand on a un enfant qui va faire une crise émotionnelle, ben, nous, ça va nous mettre en tension aussi très fort. Et contrairement à un parent qui n'aurait pas vécu de violence éducative, on va avoir beaucoup plus de mal à gérer ce type de réaction émotionnelle de l'enfant.
Est-ce que ce n'est pas le genre de problème qui arrive surtout dans des foyers où les parents sont en proie peut-être à des difficultés, à un stress, à des journées de boulot qui sont dures? Je ne pense pas que ça soit dû forcément à une certaine catégorie de population. J'imagine que toutes les classes socioculturelles sont touchées par ça.
Tout à fait. Mais alors, oui, tout à fait.
C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que les parents sont plutôt stressés? C'est aussi dû à leur éducation aussi, peut-être?
Oui, alors c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui effectivement que quand on a été éduqué avec un type d'éducation traditionnelle, on va avoir tendance à reproduire ou à être en difficulté pour trouver des alternatives. Et puis effectivement, il y a notre vie qui est pleine de stress, qui est avec des fois des horaires de travail qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins de nos enfants. Et donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Et c'est vrai que pour certains parents, ça va être plus difficile que pour d'autres. Je pense notamment au cas de famille monoparentale où forcément tout seul, ben, c'est moins facile que quand on est à deux où on peut se relayer. Donc c'est vrai que les parents ils sont dans des contextes aussi qui sont très différents et certains vont cumuler plus de facteurs de fragilité que d'autres. Mais effectivement, c'est un sujet qui touche en fait vraiment toutes les catégories socio-professionnelles, sociales, etc. Quoi.
Vanessa Callas, l'éducation positive, c'est du laxisme, non?
Ah, alors ça, c'est une question que j'aime bien.
Mais, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde dit, c'est qu'effectivement, oui. Maintenant, on dit oui à tous les gamins, on ne sait pas refuser, on accepte quoi qu'il arrive pour éviter qu'il y ait une crise de nerfs, pour éviter que la tension monte.
Et alors non, justement, l'éducation positive, c'est pas du tout du laxisme. Le laxisme, c'est de la maltraitance, en fait. C'est-à-dire que dire oui à tout, pas s'occuper de son enfant, le laisser faire... c'est pas éducatif. C'est-à-dire que là, on est sur un autre extrême. Autant l'autoritarisme, la violence éducative, c'est un extrême, autant le laxisme, en fait, c'en est un autre. Et en fait, quand on éduque un enfant avec les préceptes de l'éducation relationnelle positive, comme j'ai dit en tout début, là, on dit très souvent non, on pose un cadre qui est ferme, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a beaucoup de fermeté. Et si mon enfant, à un moment donné, fait une crise parce qu'il voulait un bonbon juste avant le repas et que, ben, à la maison, non, il n'y a pas de bonbon avant le repas, je ne vais pas céder, je ne vais pas lui donner un bonbon pour avoir la paix, parce que ça, en plus, ça ne marche pas. Par contre, je vais maintenir mon cadre, mais plutôt que de hausser le ton, de le punir, de sévir, je veux dire, ben, c'est OK, en fait, d'être déçu, d'être frustré, parce que ce bonbon, tu en avais vraiment envie, c'est OK, mais je ne peux pas te le donner. Et en fait, on va maintenir sa position.
Alors,
c'est ça, en fait, la différence entre ces deux types d'éducation et la différence aussi avec du laxisme, qui serait de céder pour avoir la paix, qui n'est pas du tout éducatif.
Alors, si vous deviez donner une définition de ce style d'éducation-là, ça serait laquelle ?
Alors, pour moi, en fait, je le définis souvent en disant que finalement, c'est le fait de proposer des réponses éducatives qui vont être bonnes pour mon enfant, pour son développement, aujourd'hui et demain, mais aussi pour tous dans la famille. C'est-à-dire que les réponses éducatives que je pose, elles respectent mon enfant, mais elles respectent aussi les besoins de tout le monde dans la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et ça c'est souvent un aspect de l'éducation positive ou relationnelle qui est mal compris, c'est qu'on n'est que sur les besoins de l'enfant. Et en fait non, il faut aussi prendre en compte les besoins de la maman, les besoins du papa, les besoins du frère ou de la sœur, etc. C'est-à-dire sinon, en fait, un des écueils, ça va être que le parent, il va s'épuiser. Il va s'épuiser parce qu'il va être trop sur les besoins de l'enfant. Et les besoins de l'enfant, en fait, ils ont besoin d'être satisfaits, j'allais dire, de manière globale. Mais on ne répond pas à tous ses désirs. Ce n'est pas ça le but. Il y a plein de choses qu'il aura envie, ben, on va dire non. Mais les besoins de base, comme le besoin, par exemple, d'être en lien avec le parent, le besoin de passer du moment ensemble, le besoin d'affection, là, on répond à ces besoins-là, le besoin de sécurité, le besoin de manger, le besoin de dormir, etc. Tous les besoins de base, on y répond. Ensuite, tout ce qui va être des envies ou des demandes, on ne répond pas à toutes les demandes ou toutes les envies. Sous prétexte qu'il faudrait éviter que mon enfant ressente des émotions négatives. En fait, oui, les émotions, ça fait partie de la vie, donc oui, il y en a.
Ouais, mais
on les ressent.
Mais là, Vanessa Callas, les gens qui nous écoutent doivent se dire, ceux qui prônent cette éducation non violente et positive, bah, ils savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants.
Alors, pourtant, j'en ai. Et je vous garantis qu'on peut le faire. Je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment le poids aussi de toutes ces générations où on a vécu avec cette éducation traditionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 85% des Français sont dans quelque chose de l'ordre de l'éducation traditionnelle. Donc, ils n'ont pas encore expérimenté autre chose. Donc, on est sur une espèce de croyance où on se dit, mais ça ne va pas marcher, ou c'est pas pour moi. Moi, j'ai envie de dire, mais essayez. Venez à un atelier, venez à une conférence débat, essayez, et vous allez voir qu'il y a des choses qui fonctionnent. Alors, bien sûr, on n'a pas de baguette magique. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais, j'allais dire, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, nos enfants, ils ne vont pas rester enfants toute leur vie. Hein. Il y a un moment, ils vont devenir adultes. Et quelle relation on a envie d'avoir avec eux quand ils seront adultes ? Qu'est-ce qu'on a envie qu'ils se souviennent de nous, de leur passage chez nous quand ils étaient enfants ? Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est plutôt dans une logique relationnelle. Ça veut dire aussi changer complètement de paradigme, parce que pendant longtemps, on nous a dit, ben voilà, c'est l'adulte qui commande, c'est l'adulte qui dit que, c'est l'adulte qui doit avoir le dernier mot, etc. On est dans une logique, en fait, de pouvoir, de relation de soumission et de domination. Et moi, ce que je propose, en fait, c'est vraiment un autre paradigme, qui est celui de la relation. C'est-à-dire que je suis là, je suis parent. Alors, effectivement, sur la plupart des décisions, ben, c'est moi qui vais poser le cadre, mais des fois, ben, mon enfant, il a aussi le droit de dire j'ai cette envie-là, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai telle demande, etc. Et on peut l'entendre parce que c'est une personne à part entière. Après, ça m'appartient de dire oui, de dire non, parce qu'à un moment donné, soit c'est approprié, soit ça ne l'est pas. Et donc, moi, j'ai une mission quand même de guider mon enfant et de le cadrer, et pas de le laisser faire tout et n'importe quoi. Mais je peux l'écouter parce que c'est une personne en devenir, en fait, quoi.
Mais les choses évoluent quand même, parce que moi, quand j'étais gosse, c'était les enfants ne parlent pas à table.
Ouais,
Que maintenant...
Tout à fait. Et aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants comme on les éduquait à nos époques où il y a 40 ou 50 ans. Et, ça a beaucoup évolué.
Et heureusement. Et d'ailleurs, dans ce ciné-débat que vous proposez le 30 avril, dans le documentaire, on parle de la Suède. Pourquoi ?
Alors, on parle de la Suède. Donc, le documentaire est basé, je pense, sur l'expérience suédoise. Parce qu'en Suède, donc, ça a été vraiment le premier pays précurseur qui a voté une loi contre les violences envers les enfants. Donc, tout type de violence, en fait, hein, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou verbales. Et donc, 79, c'est il y a plus de 40 ans. Et donc, aujourd'hui, en fait, le documentaire se propose de voir quelle génération d'enfants cela a généré. Donc après, voilà, je ne vais pas spoiler le documentaire, mais du coup, on voit un peu les effets sur la génération actuelle. Et c'est pour ça qu'on parle d'une génération d'imbattables, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas été battus, et voir comment maintenant eux-mêmes élèvent leurs propres enfants et comment ça a changé au niveau des mentalités et au niveau aussi de l'information, parce que c'est vrai que c'est un pays qui a légiféré, mais qui a aussi mis les moyens en termes d'information, c'est-à-dire au niveau des médias, au niveau des professionnels de santé, au niveau de la pub qu'on voit, même au niveau des campagnes d'affichage, etc. Ils ont mis vraiment le paquet par rapport à ça. Et les études montrent qu'effectivement, par rapport aux autres pays qui ont légiféré, là où ça fonctionne le mieux et là où les mentalités et les pratiques arrivent à évoluer le plus vite, c'est les pays qui ont cumulé à la fois une loi plus le développement d'actions d'information envers les parents pour les accompagner dans ce changement, en fait. Et pas les laisser finalement dire, mais voilà, mais ok, on me dit plus de fessées, ok, je fais comment ?
Oui, mais ça donne quoi au résultat ? En Suède,
il faut venir voir le documentaire.
Bien vendu, ça, c'est pas mal. C'est pas mal.
Mais oui,
forcément, bon, on imagine. Alors justement, on va parler de quoi après dans le débat suite au film ?
Alors dans le débat suite au film, donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir évoquer. Donc il y a ce thème des violences éducatives ordinaires, donc qui sont des violences finalement qui sont donc physiques, psychologiques ou verbales. Et on utilise ce terme lorsque la violence elle est utilisée envers les enfants dans une intention éducative pour leur bien, pour qu'ils aient un bon comportement. Mmh. Et quand elle est culturellement admise et tolérée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle devient ordinaire. Parce que finalement, c'est banal. Voilà. Dans les violences physiques, par exemple, bon, donc on a la fessée, on a les gifles, on a le fait de mettre des tapes sur les mêmes, le fait de secouer, de tirer les oreilles, de bousculer, pousser, priver de nourriture, forcer à manger, forcer à dormir quand on n'a pas sommeil, etc.
Je me reconnais quand même là.
Hein. Eh ben,
pas en tant que parent, hein, mais...
Oui, mais en tant que... Oui, c'est des choses qu'on a... Soit on a vécu, soit on a vu ou on a été témoin. Dans les violences psychologiques, on a le fait donc de punir, de culpabiliser, de dévaloriser l'enfant, faire du chantage, menacer, priver d'affection, menacer d'abandonner l'enfant, l'isoler, le comparer à d'autres. Et dans les violences verbales, donc on a crié, insulté, haussé le ton dans le but d'effrayer, se moquer, humilier l'enfant, etc. Donc vraiment, la violence éducative ordinaire, ça regroupe tous les moyens violents que les adultes utilisent pour faire obéir l'enfant et changer son comportement, pour obtenir son attention, ou encore lui signifier, comme je disais tout à l'heure, que ben, c'est l'adulte qui commande. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui est bien, bien ancré. Et la violence éducative ordinaire, elle se transmet comme ça de génération en génération. Les adultes peuvent reproduire ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, en pensant aussi donner une bonne éducation à l'enfant. C'est-à-dire que là, il y a une étude, par exemple, en 2017 qui montrait que 33% des Français ne savaient pas ce que c'était une violence éducative ordinaire. Et voilà, ça faisait partie du... Et donc, il y avait vraiment une méconnaissance par rapport à ça.
Vanessa Callas, entre décembre et avril, là, ça vient de se terminer, vous aviez fait avec le cabinet Plurisanté, l'association Ressources Parents 46, la CAF, la ville de Pradines, l'association Le Bilboquet, il y a eu beaucoup de monde. Vous aviez fait des ateliers, des groupes de parole, des conférences débats, des conférences ateliers. Est-ce que cela va se reproduire dans l'année qui vient ?
Alors, oui, on espère que oui. En tout cas, on a fait une demande en ce sens à nos partenaires financiers. Donc, c'est vrai que tout part de l'association porteuse, c'est vraiment Plurisanté 46 à Pradines, avec on a un pôle au niveau parentalité qui est assez actif, qui veut vraiment promouvoir des actions de sensibilisation, de prévention, etc., accessibles vraiment au grand public, et donc gratuites, avec la CAF, peut-être la MSA aussi pour l'an prochain, Et donc, on devrait pouvoir, en tout cas, renouveler des actions qui redémarreraient à partir de la rentrée de septembre 2022.
Eh ben, on aura l'occasion d'en informer les auditeurs. En attendant, dans l'immédiat, c'est voilà. Ce 30 avril, ce ciné-débat avec le film « Même qu'on est imbattable ». Eh ben, on invite tout le monde à venir parler de parentalité positive, d'éducation positive. Ou alors, comment on dit finalement? Parce que là, je crois que j'ai déjà perdu le nom de...
Alors, il y a plein de...
Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
En fait,
hein.
Il y a plein de choses, en fait. C'est vrai que moi, j'aime pas trop utiliser éducation positive parce que ça génère beaucoup d'incompréhension. Voilà, parce que du coup, on se dit, bah, si on n'est pas dans l'éducation positive, c'est qu'on est dans l'éducation négative. Alors ouais. Que, bah, non, pas forcément. Mais c'est vrai que moi, je préfère parler d'éducation plutôt relationnelle ou de discipline positive. Parce que c'est quand même une partie qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans quelque chose de bienveillant qu'on est forcément tout mou comme un chamallow. Mmh. Non, on pose aussi du cadre avec de la fermeté et on le tient parce que c'est bon pour mon enfant.
Et en tout cas, on vous retrouve aussi, hein, j'en profite pour dire un petit mot sur le cabinet Plurisanté à Pradines, où là, eh ben, il y a un nombre de thérapeutes familiales, des psychologues, des orthophonistes, un dermatologue, il y aura même bientôt un naturopathe, donc il y a tout ce qu'il faut là-bas, et pour trouver de l'aide, j'ai envie de dire.
Tout à fait, et on est tous sensibilisés à ces questions parce que dans nos pratiques, très souvent avec les adultes avec qui on travaille, on tombe sur beaucoup de blessures d'enfance et qui s'originent justement sur des violences éducatives qui ont été vécues en tout cas soit dans le cercle familial ou dans certaines institutions comme l'école aussi, malheureusement.
Et je rappelle que vous êtes thérapeute familiale et consultante en parentalité. Merci Vanessa Callas.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Ce magazine à retrouver en podcast sur cfmradio.fr et aussi en rediffusion tout à l'heure à 17h et 21h30. Merci d'être avec nous sur CFM Cahors. Dans un instant, c'est le journal.